Radio Cité Genève. L'œil du commissaire-priseur, Viviane Juteau.
Bonjour, aujourd'hui je reçois la toute nouvelle directrice du musée de l'Élysée à Lausanne, donc musée de la photo, Tatiana Franck. Bonjour Tatiana.
Bonjour Viviane, bonjour à tous.
Alors c'est quelque chose de formidable que tu sois là, enfin que tu sois là non parce que nous te connaissons bien. Tu as été auparavant la directrice des archives de Claude Picasso et tu as fait encore beaucoup d'autres choses dans ta vie, on va le voir tout à l'heure. Mais tu n'étais pas candidate, et il y avait 29 candidats je crois.
Oui, apparemment.
Apparemment. Alors on va revenir en arrière et je vais te poser une question qui est traditionnelle dans notre émission. Quelle petite fille étais-tu ?
J'étais une petite fille dynamique, heureuse et hyperactive.
Hyperactive,
ce qui est encore le cas aujourd'hui, je crois.
C'est ce que j'allais dire, oui, là, tu n'as pas beaucoup changé, tu n'as pas grandi là, de ce côté-là.
Exactement.
Alors, je crois que tu as eu une enfance un peu chaotique quand même, avec des parents qui se sont séparés.
Oui, aussi, effectivement, donc, je suis née à Genève, d'un père belge et d'une mère française, donc j'ai la triple nationalité. J'ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans et ensuite mes parents ont divorcé et je suis partie avec ma mère vivre à Londres pendant plusieurs mois, puis en Écosse. Et ensuite, nous avons déménagé à Paris où j'ai vécu pendant 4 ans avant de retourner à Genève où j'ai passé ma maturité fédérale suisse, scientifique.
Donc tu parles plusieurs langues ?
Oui.
Tu parles l'allemand aussi ?
Je parle allemand, français, anglais et je suis en train d'apprendre l'espagnol.
C'est magnifique tout ça. Donc on imagine bien donc une éducation internationale qui prédispose à beaucoup de choses. Tu rêvais quand tu étais enfant, tu rêvais de quoi ?
De faire le tour du monde en bateau.
Oui,
en bateau à voile. Je rêvais d'aventures et de découvertes, peut-être d'échapper.
Peut-être d'échapper. On m'a dit que tu rêvais d'être biologiste marine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'était ce rêve-là ?
On ne peut rien te cacher.
Non,
effectivement,
non.
J'ai toujours rêvé d'étudier la reproduction sexuelle des homards.
Ah, ça, c'est compliqué. Comment ça se passe, cette histoire-là ? Un coup de pince ?
Et effectivement. Et donc, j'ai commencé par suivre des études de biologie à Lausanne, justement. Et je me suis...
Ah bon, c'était plus qu'un rêve alors. Tu as donné un début de réalisation à ce rêve.
Exactement. C'est vrai que j'ai toujours été attirée par les sciences, par le milieu marin. Je vais très régulièrement dans une île en Normandie qui s'appelle les îles Chausey, qui sont les îles anglo-normandes, la plus petite des îles anglo-normandes et la seule qui soit française. C'est un archipel merveilleux où il y a les plus grandes marées d'Europe avec un dénivelé de plus de 12 mètres. Et cela m'a certainement prédisposée à étudier et à vouloir étudier mieux ce milieu marin. Et finalement, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas fait pour moi. Et donc, j'ai décidé de partir à Paris étudier l'histoire de l'art et le droit.
Alors, l'histoire de l'art, où est-ce que tu l'as étudié à Paris ?
À la Sorbonne. Et c'est vraiment un choc émotionnel et artistique que j'ai eu à l'âge de 17 ans devant une photographie de Nan Goldin, qui représentait une prostituée à Bangkok, qui a été pour moi un grand choc. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'en fait, ma vocation était de travailler avec les artistes et de promouvoir la connaissance et l'art en général.
Alors, tu as une prédisposition familiale, on va quand même en parler, parce que c'est vrai que tout ça n'est pas né sur un terreau étranger. Tu es donc la nièce par alliance du célèbre Henri Cartier-Bresson et la nièce, alors directe, de Martine Franck, qui était elle-même une très grande photographe. Ton père est un grand galeriste aussi. Donc, au fond, tu as été élevée dans l'art.
Oui, effectivement, j'ai baigné entourée de créateurs qui m'ont appris à voir, appris à regarder et qui m'ont donné un autre regard sur le monde. C'était une vraie chance d'être entourée de tant de création et de créateurs.
Je voudrais que tu expliques ça à nos auditeurs, parce qu'avoir un autre regard, tu peux expliquer ça ?
Ils m'ont appris à voir et à voir la vie de manière peut-être décalée, différente, avec un certain recul. Et c'est vrai, quand vous avez la chance d'être entouré d'un artiste suisse comme Charlemagne Peilestein, qui organise des concerts avec... des ours en peluche et qui jouent des partitions musicales absolument fantastiques, ça vous fait rêver, oui.
Tu avais quel âge, là, quand tu as découvert cet artiste ?
J'avais 6 ans, 7 ans.
Ah oui, 6 ans, 6 ans, 7 ans. Oui, c'est donc absolument un terreau sur lequel tu as, j'allais dire, prospéré, mais tu aurais pu aussi ne pas t'y intéresser. Il fallait aussi une disposition personnelle pour j'allais dire, imprimer tout ça.
Exactement, c'est vrai qu'au départ, je n'ai pas voulu tout de suite justement me plonger dans ce monde, bien que je vivais entourée de ces créateurs, mais c'est pour ça que j'ai d'abord décidé de suivre des études scientifiques. C'est ensuite seulement que j'ai décidé de créer ma propre voie et j'ai toujours suivi mes instincts. Et je pense que malgré tout, j'ai un parcours un peu différent de certaines personnes qui travaillent dans le monde de l'art parce que justement, j'ai fait des choix très personnels.
Alors, ces choix personnels, c'est bien sûr d'aller à la rencontre des artistes. Tu as, on l'a dit, rencontré des artistes parce que ta famille t'a fait vivre au milieu d'eux, mais je crois que tu as cherché à en rencontrer aussi toi-même.
Oui, j'ai toujours voulu découvrir les artistes de ma génération et les soutenir. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de grandir avec un artiste et de grandir avec quelqu'un.
Donc, si tu veux bien, on va écouter un peu de musique, on va écouter tes choix. Alors, on se reparle tout à l'heure, on reprend le cours de cette interview tout à l'heure.
Wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes at its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind, keys that jingle in your pocket, words that jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Was the sound of distant drumming just the fingers of your hand? It's just hanging in a hallway or the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, you were suddenly aware that the autumn leaves were turning. Spinning real as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, dans l'œil du commissaire priseur. Je voudrais aussi vous dire que Tatiana Franck est une toute nouvelle directrice de l'Élysée. Nous l'interviewons bien sûr à ce titre-là, mais c'est aussi une belle personne qui a un parcours passionnant. Alors, tu as été très attirée, petite fille, par des artistes que tes parents t'ont fait rencontrer. Tu en as rencontré d'autres à l'âge adulte. Comment est-ce que tu as organisé tout ça tout en faisant tes études ?
Comme je le disais, je pense que je suis quelqu'un de très actif et j'ai toujours eu plusieurs vies en même temps, donc à la fois, j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études. Donc j'ai fait une licence d'histoire de l'art en parallèle d'une licence de droit à la Sorbonne à Paris. Et en même temps, je travaillais aux imprimeries Idem, rue du Montparnasse, qui sont les anciennes imprimeries Mourlot, dans lesquelles travaillaient Matisse, Picasso, et aujourd'hui qui accueillent des artistes contemporains comme J.R., David Lynch, Jean-Michel Alberola et bien d'autres. Et pour moi, c'était important d'avoir cet équilibre études et travail et surtout de pouvoir m'échapper le soir entourée de ces créateurs fascinants et dans un lieu magique qui sont ces anciennes imprimeries.
À quoi ressemblent ces imprimeries ?
Donc, elles sont 51 rue du Montparnasse et ce sont des magnifiques imprimeries avec des presses lithographiques et maintenant des presses de gravure, un lieu chargé d'histoire. Et où vous avez la chance de pouvoir côtoyer des artistes en plein travail de création.
Donc là, je ne sais pas comment tu as fait, parce que travailler à deux licences en même temps, c'est déjà un peu supérieur à ce que font la moyenne des étudiants. Certains n'en ont qu'une et ne travaillent qu'à une, avec un taux d'échec important. Donc tu en as fait deux et en plus tu travaillais. Comment est-ce que tu organisais ça ? Tu avais du temps encore pour le sport ou pour ta vie personnelle, ou tu es une très jolie femme. Est-ce que tu avais du temps pour séduire ? Comment ça se passait tout ça ? On est curieux de ça.
Oui, j'ai réussi à manager toujours du temps pour moi et je suis quelqu'un de très sportif, donc j'arrivais à lier courses très tôt le matin avant d'aller à l'université et le soir dans les ateliers. Et enfin, une vie active et riche en amitié, des belles amitiés. Et mon mari, Alexis de Mauduit, avec lequel je partage ma vie depuis 10 ans maintenant.
10 ans déjà,
oui.
Formidable. Donc, on va revenir à ce côté sportif. Je crois que tu es entraînée en ski par un ex-champion. Raconte-nous ça.
Oui, j'ai eu la chance tout au long de mon parcours d'avoir fait de belles rencontres. Des rencontres qui m'ont marquée et Patrice Bianchi, ancien champion olympique en slalom spécial, qui malheureusement s'est déchiré les ligaments en 92 au JO d'Albertville. Et à la suite de ces Jeux olympiques, il est devenu entraîneur. Et donc j'ai eu la chance d'avoir été entraînée par lui à Val d'Isère en France. Et c'était quelqu'un d'extrêmement exigeant, extrêmement difficile. Qui dès que vous ratiez une porte, vous faisait remonter avec les skis sur l'épaule. Et une fois arrivé au haut des sommets, vous deviez immédiatement descendre la piste. Donc voilà.
Ah oui, c'était Koh-Lanta.
C'était un peu Koh-Lanta. Et c'est vrai que cette discipline, voilà, m'a donné certainement la discipline que j'ai aujourd'hui et me permet de
C'est quelque chose que tu voulais faire ou c'est quelque chose que tes parents t'ont suggéré?
Non, ça a toujours été un choix et d'ailleurs peut-être peu compris. De ma famille, parce qu'à l'âge de 8 ans, j'allais toute seule au championnat de France, alors que les autres enfants étaient accompagnés de leurs parents. Donc c'était vraiment un choix personnel. Je pense que justement, c'était au moment du divorce de mes parents et j'avais besoin de trouver un autre équilibre et de me défouler certainement dans ces piquets.
Et puis peut-être trouver un cadre sécurisant, une rigueur.
Ouais.
Donc, tu mènes une double licence, tu travailles... Tu fais du sport, je dirais, de compétition. Il n'y a pas beaucoup de place pour plus. Donc, comment as-tu rencontré ton mari? Excuse-moi, mais ça, Tatiana, ça nous intrigue beaucoup. Alors, nous connaissons ton mari, qui est un beau garçon, très cultivé, absolument charmant. Tu es depuis 10 ans, pas marié depuis 10 ans, mais tu es depuis 10 ans avec lui. Comment tu l'as croisé?
Je l'ai rencontré à un vernissage à la Fondation Henri Cartier-Bresson. Vernissage Cartier-Bresson-Giacometti. Grâce à une amie commune, Tamara Corme, qui était l'assistante d'Henri Cartier-Bresson. Et nous nous sommes rencontrés et ensuite nous avons...
Est-ce que c'est au premier regard que tu es tombée amoureuse ou est-ce que ça a été un lent travail de construction et de séduction de sa part?
C'est quelqu'un de très atypique, donc j'étais intriguée par son côté décalé et original. Et nous sommes allés pour notre premier dîner dans le restaurant Dans le Noir, rue Quincampoix à Paris. Et un restaurant où vous êtes servi par des aveugles et vous ne savez pas ce que vous mangez, donc un blind date au sens littéral du mot.
Oui, c'était impressionnant ça. Et ça, c'était une idée de lui ou de toi?
Des deux, donc voilà.
Vous aviez tous les deux envie de faire cette découverte ensemble?
On est passé devant par hasard et on s'est dit, allons-y.
Pourquoi pas rentrer et essayer?
Exactement.
Donc tous les deux un côté, comment dirais-je, un peu expérimental.
Oui. Et on est curieux. Et je pense que c'est ce qui nous rassemble et nous fédère, c'est cette curiosité.
Donc, cette curiosité t'a mené loin dans le monde de l'art, puisque tu tâtes même du commerce de l'art. Et c'est très atypique aussi pour l'historienne de l'art que tu es.
Oui, parce que j'ai voulu justement découvrir ce qui se faisait de mieux et de plus original, on va dire, dans le domaine. Et c'est pour ça que suite à ma licence d'histoire de l'art et de droit, j'ai effectué un master de droit des affaires par correspondance, ce qui m'a permis de travailler pendant 1 an à Londres au Fine Art Fund, qui est un fonds d'investissement dans l'art, et ça m'intéressait de comprendre comment ce fonds était le seul à marcher aussi bien. Donc c'était vraiment pour moi une façon de m'immerger, de comprendre ce mécanisme et ce fonctionnement pour mieux en sortir après, puisque le commerce n'est pas quelque chose qui m'intéresse.
C'est important de le dire. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de fonds d'investissement dans l'art. Très peu qui ont fonctionné parce que l'art n'est pas liquide déjà et parce que les choix qui sont faits ne sont pas forcément ceux que va faire le grand public. On oublie souvent ça en France où l'art est quasi officiel. Donc là, il y a un vaste débat.
Exactement.
Et qui est très intéressant, qu'on pourra mener une autre fois sur ces ondes, si tu le veux bien. Parce que
avec grand plaisir. Je pense que c'est un sujet vraiment passionnant et qui fait débat aujourd'hui.
C'est vrai. Alors, revenons donc à ton parcours. Tu sors de ce fonds d'investissement et là, tu vas chez Christie's, je crois.
Chez Christie's, je reviens faire un stage dans le département d'art contemporain de Christie's Paris pour justement comprendre maintenant le monde des maisons de vente aux enchères, parce que je pense important d'avoir une vision holistique du monde de l'art et pas seulement uniquement du point de vue intellectuel et curatorial, mais le marché fait partie intégrante du monde de l'art et on doit le comprendre pour mieux l'appréhender. Et suite à ces 3 mois de stage, à la fin de mon stage, je reçois un coup de fil de Claude Picasso, coup de fil qui va changer ma vie.
Alors, on va en parler tout à l'heure, mais avant ça, je voudrais revenir à cette période de temps, de 3 mois que tu as passé chez Christie's, donc dans le monde de la vente aux enchères. Qu'est-ce que tu y as découvert de différent, là ?
J'ai appris à réaliser un inventaire, à côtoyer des collectionneurs et à cataloguer une vente aux enchères. Et pour moi, c'était intéressant de comprendre comment est-ce qu'on arrive à tout le temps aller au-devant pour produire des ventes de manière si régulière et si proactive.
Alors, on va reparler de tout cela tout à l'heure et puis surtout de cette nouvelle période qui s'est ouverte avec ce choix qu'a fait Claude Picasso de te nommer directrice de ses archives. On y revient après un morceau de musique que tu as choisi aussi et qu'on écoute avec plaisir.
Cité Genève.
Viviane Juteau.
L'œil du commissaire-priseur.
Je suis avec Tatiana Franck, qui était la directrice des archives de Claude Picasso, on va en parler à l'instant, et qui est aujourd'hui, depuis mars, je crois, la directrice du musée de l'Élysée à Lausanne. Donc, tu abordes maintenant cette période de ta vie où tu deviens la directrice des archives de Claude Picasso. Comment l'as-tu rencontrée ?
J'ai rencontré Claude grâce à ma tante, Bacha Ambericos, et mon autre tante, Martine Franck, puisque Claude Picasso est photographe et a été l'assistant d'Henri Cartier-Bresson, notamment, et de Richard Avedon.
D'accord, oui, ça se sait assez peu d'ailleurs, c'est intéressant, de Richard Avedon aussi.
Oui.
Ces merveilleuses photos de mode qui ont marqué l'histoire de la photo. Donc, te voilà plongée dans l'univers de la photo. Et alors là, qu'est-ce que te demande Claude Picasso avec ses archives? D'abord, je crois que tu les déménages. Hein. Ça a dû être un gros morceau.
Alors, tout a commencé d'abord par un stage quand j'avais 17 ans à Picasso Administration, qui est la société qui gère les droits d'auteur de Picasso. Et donc, Claude Picasso est le gérant. Et c'était un stage d'été et j'ai inventorié l'ensemble des demandes d'authentification des œuvres de Picasso, puisque Claude Picasso a été nommé par sa famille comme étant la personne qui a la capacité d'authentifier les œuvres de son père. Et grâce à ça, je me suis plongée dans l'univers picassien. Et visiblement, donc, le stage s'est très bien passé, puisque 4 ans plus tard, Claude Picasso me rappelle et me propose cette fois-ci de travailler pour lui personnellement et de gérer sa collection personnelle.
Et alors, sa collection de tableaux ou sa collection de photos ?
Les deux.
Les deux, ça c'est passionnant, c'est oui. Formidable.
C'était...
Et tu as quel âge à ce moment-là, quand tu es nommée directrice des archives Picasso
de J'ai 22 Picasso. Ans, je termine un stage chez Christie's et je m'apprête à terminer mes études de droit et fiscalité du marché de l'art à Lyon 3. Et quand Claude Picasso me propose de gérer sa collection, je lui explique que j'ai encore une année d'études à faire et il accepte que je la termine. Donc cette année sera alternée entre Paris et Lyon, entre mes études et le travail pour Claude Picasso.
Et tu fais toujours ta course à pied ?
Toujours.
Et ton ski ?
Toujours.
Tu es un phénomène. C'est d'ailleurs pour ça que je souhaitais vraiment t'interviewer aujourd'hui. Donc, tu commences à travailler avec Claude Picasso. Quel genre d'homme est-il ?
Claude Picasso est quelqu'un de humainement formidable, qui est tourné vers les autres et qui pense aux autres souvent avant de penser à lui. Et c'était une merveilleuse rencontre qui a vraiment changé ma vie et je le remercie encore infiniment de m'avoir fait confiance, de m'avoir donné cette confiance immense à un âge très jeune et de m'avoir permis de grandir et d'être qui je suis et de m'avoir finalement tout appris.
Alors, qu'est-ce que tu fais une fois que tu es en place, que tu as pris tes marques? Qu'est-ce que tu fais pour lui?
Alors, mon premier travail, qui n'était pas des moindres, était justement de déménager cette collection de Paris à la Suisse. Et donc, d'inventorier des milliers d'œuvres, donc des œuvres issues de la collection de son père, Pablo Picasso, et des œuvres qu'il a pu collectionner tout au long de sa carrière.
Ça, c'est un énorme travail. Et là, ton expérience de chez Christie's, ça a directement servi.
Exactement.
Les inventaires.
Exactement.
Donc, tu déménages. On imagine très bien ce que ça peut représenter. Tu avais une équipe avec toi pour organiser tout ça, parce qu'il y a une logistique dans un déménagement.
Oui, on a été bien sûr aidés par des transporteurs, des restaurateurs de très grande qualité. Mais j'étais la seule personne à travailler pour Claude Picasso directement.
Donc, tout ça, j'imagine, a pris un certain temps. Combien de temps, le déménagement ?
Plusieurs mois, voire années.
Oui, ça, je veux bien le croire. Donc, ensuite, tu es aux commandes. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Tu organises des expositions, je crois.
Oui, alors, mon rôle principal était donc d'inventorier la collection, d'organiser des expositions à l'international, donc de monter des projets, d'initier des projets en tant que commissaire d'exposition et de gérer l'ensemble des demandes de prêts dans le monde entier, pour les œuvres de Pablo Picasso principalement.
Là, il faut nous expliquer, parce que tu as fait quand même un certain nombre d'expositions qui ont eu un certain retentissement, dont une au Musée d'art et d'histoire, ici à Genève. Parle-nous-en.
Effectivement, avec la commissaire d'exposition Stéphanie Ansari, nous avons eu l'idée de mettre en parallèle les photographies de David Douglas Duncan, qui est un photographe américain, photographe de guerre, qui est encore vivant, qui a 96 ans aujourd'hui, qui vit dans le sud de la France et qui est un des seuls photographes à avoir été admis dans l'intimité de Pablo Picasso pendant plus de 30 ans, de 1956 jusqu'à la mort de Picasso et même bien après. Pablo Picasso a toujours été entouré de photographes puisqu'il a toujours souhaité photographier ses œuvres en cours de création pour suivre le processus créatif. Il avait de nombreux amis photographes. Mais Duncan est le seul à avoir été admis du matin au soir et à pouvoir avoir immortalisé des photographies extrêmement intimes. Donc avec Stéphanie Ansari, nous avons eu l'idée de présenter les photographies vintage de David Douglas Duncan avec les œuvres de Pablo Picasso qui figuraient dans ces photographies.
Et tu as ajouté des objets aussi, je me souviens de cette exposition formidable.
Oui, donc dans l'exposition, nous présentions plus d'une centaine d'œuvres de Pablo Picasso, des peintures, des sculptures, des céramiques, des gravures, des dessins et des photographies.
Alors cette exposition, qui a été donc, je le répète, un très grand succès et présentée au Musée d'Art et d'Histoire à Genève, avait été présentée aussi en France, je crois.
Oui, nous l'avons présentée dans plus de cinq pays. D'abord à Malaga, au Musée Picasso de Malaga, en Espagne. Ensuite à la piscine de Roubaix, en France. Cet endroit magnifique, une ancienne piscine Art déco qui a été transformée en musée. En Allemagne, au Kunstmuseum de Münster. Puis au Musée d'Art et d'Histoire de Genève et enfin à Mexico City, au Palacio de Bellas Artes. Donc cette exposition a été vue par plus de 400 000 personnes dans le monde et c'était un vrai challenge d'arriver à monter ce projet dans 5 pays avec 5 façons de travailler différentes, 5 catalogues et une vingtaine de prêteurs différents dans le monde entier.
Un vrai succès. On va écouter un peu de musique maintenant, Tatiana, tu vas nous faire danser, je crois.
Lo mejor, a mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra. Me gusta cantar el son, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. El mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 dans l'œil du commissaire-priseur. Je suis avec Tatiana Franck, qui est aujourd'hui la directrice du musée de l'Élysée depuis mars dernier et qui a été donc pendant plusieurs années la directrice des archives de Claude Picasso. On a bien expliqué tout à l'heure comment tu avais rencontré Claude Picasso, le personnage qu'il est, le déménagement des collections et ta prise de marque dans cette tâche gigantesque. Mais je crois que tu as commencé à regarder aussi, en dehors de faire des expositions Picasso, tu as commencé à regarder vers d'autres artistes.
Oui, Claude Picasso a eu cette générosité de me permettre de me construire en dehors de l'univers picassien, puisqu'on sait à quel point il est chronophage. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer des projets personnels en parallèle de mon travail aux archives Claude Picasso. J'ai notamment lancé l'artiste plasticienne, photographe, sculpteur française Prune Nourry, puisque j'ai organisé sa première exposition à Paris et ensuite des expositions à New York, à Genève, à Zurich et à Mexico City.
Il y a d'autres artistes aussi qui ont retenu ton attention.
Oui, un artiste qui s'appelle Théo Mercier, qui a été nominé pour le prix Marcel Duchamp cette année à Paris, qui est un artiste que je soutiens. Une autre artiste, Mathilde Roussel, et c'est vrai que je suis entourée de nombreux créateurs, photographes, artistes que je soutiens et dont j'apprécie énormément le travail.
Parallèlement à tout ça, ça ne suffit pas tout ce que tu fais, je crois que tu continues tes études, raconte-nous ça.
Oui, donc en plus du commissariat d'exposition pour des artistes, et j'ai également organisé une exposition sur les êtres hybrides à la galerie Sophie Scheidecker, une exposition thématique.
Où était cette galerie ?
À Paris.
À Paris.
Et le thème de l'hybride est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et comme mon rêve a toujours été de diriger un jour un musée, par les expériences que j'ai pu avoir et les rencontres que j'ai faites grâce à Claude Picasso, les nombreux directeurs de musées que j'ai pu rencontrer, je me suis rendu compte que diriger un musée, il fallait non seulement être un très bon curateur, mais un très bon administrateur et un très bon gestionnaire. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes études et de réaliser un executive MBA, donc un master en business administration, entre Columbia Business School à New York, London Business School à Londres et Hong Kong University. C'est un programme fantastique, unique dans son genre, puisque vous êtes diplômé des trois universités. Et pendant une semaine par mois, pendant 18 mois, vous voyagez entre ces trois pays. Donc on est 40 dans la classe, 40 personnes qui viennent du monde entier avec des profils extrêmement variés. Je suis la seule qui vient du monde de l'art. Nous avons des entrepreneurs, une femme qui a monté une banque en Angola, vraiment des profils extrêmement différents et très riches. Et pour moi, c'était important de comprendre la mentalité asiatique, européenne et américaine. Et ça m'a permis de sortir aussi de ma zone de confort.
Alors, on imagine bien ce que représente donc d'être la directrice des archives de Claude Picasso, de faire, je dirais, tout le sport dont on nous a parlé tout à l'heure. Je rappelle que tu t'entraînes à ski avec un ex-champion, que tu fais de la course à pied, tu continues tes études, tu étais la directrice des archives de Claude Picasso, tu rencontres tous ces artistes en su de ton travail, tu les suis. Je crois que tu es aussi au conseil d'un certain nombre de fondations. À Paris, la Maison Rouge de notre ami oui, Antoine de Galbert.
Oui, au conseil d'administration de la Fondation Cartier-Bresson, au conseil d'administration des Amis de l'imprimerie IDEM et au Sotheby's Advisory Board.
Comment est-ce que tu arrives encore à voir ton mari ? Maintenant, on va parler de lui. Comment arrives-tu à voir ton mari ? Nous avons entendu tout à l'heure comment tu l'as rencontré. Donc, tu l'as rencontré dans un vernissage. Donc, l'histoire était déjà écrite. Vous êtes depuis 10 ans ensemble. C'est une belle histoire. Comment trouves-tu encore du temps pour lui ?
On trouve du temps quand on le souhaite.
Le temps est extensible.
Ton
temps est extensible.
Quand on veut quelque chose, on le peut. Et c'est vrai que j'ai fait 5 ans d'école du cirque avec le cirque Annie Fratellini à Paris.
En plus, à quel moment ?
Alors
attends, on a raté un bout de l'histoire.
Et j'aime beaucoup jongler avec le temps et avec les activités.
C'est vrai. Alors, juste une question là maintenant. À quel moment l'école du cirque ? Parce que tout à l'heure, on a fait le parcours de tes jeunes années. Et on a raté cet épisode-là.
C'est quand j'habitais Paris, donc entre 8 ans et 13 ans.
Et tu as fait l'école du cirque ?
Oui, pendant la semaine, donc mercredi après-midi et le samedi après-midi.
Et est-ce que tu avais une préférence ?
Oui, le trampoline et le monocycle.
Alors le monocycle, qu'est-ce que c'est ?
Le monocycle, c'est un vélo à une roue. Et voilà. Et
c'est pas sur un fil quand même ?
Non, pas encore.
Je m'attends à tout de toi, Tatiana.
Et la vie est étonnante puisque tout ce que vous apprenez dans la vie vous sert un jour. Récemment, dans le cadre de mon MBA, nous avons organisé un talent show, puisque dans les 40, il y a énormément de talents cachés, une chanteuse d'opéra par exemple. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai repris le monocycle et j'ai jonglé dans ce cadre-là.
C'est magnifique, on va écouter encore un peu de musique. Alors je ne sais pas si tu nous fais danser cette fois-ci, mais je ne sais pas dans quel pays tu nous emmènes. On y va avec toi en tout cas, les yeux fermés.
Studied evil, I can't deny it. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil EDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. We'll against a jungle primeval green. She had the looks of a beauty queen, no bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. My part's history, one to behold. I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. The town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priests come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo.
Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juteau.
Je suis avec Tatiana Franck, l'ancienne directrice des archives Claude Picasso, qui depuis le 2 mars 2015, donc c'est tout récent, est la nouvelle directrice du musée de l'Élysée à Lausanne. Alors le musée de l'Élysée, chacun sait que c'est le musée de la photo en Suisse, mais il faut que tu nous expliques comment tu t'es retrouvée là alors que tu n'étais pas candidate et qu'il y avait 29 candidats.
C'est un musée qui m'a toujours fait rêver, que je visitais régulièrement. Et quand j'ai appris le départ de Sam Sourdze au mois de juillet de l'année dernière, je me suis dit, effectivement, ça serait une formidable opportunité. À l'époque, en juillet, j'étais au Mexique. Je terminais l'exposition Picasso Duncan et le timing n'était pas le bon. Et à l'automne, on m'a appelé pour me proposer de postuler et je me suis dit que c'était le bon moment. Et donc, j'ai postulé et je remercie encore le Conseil d'État de m'avoir fais confiance.
C'est formidable parce que, rappelons ton âge, on peut encore en parler.
30 ans et nous fêtons, le musée de l'Élysée fête cette année ses 30 ans. Donc un double anniversaire remarquable.
Une directrice de 30 ans pour un musée qui a 30 ans d'existence, c'est formidable, effectivement. Donc tu as pris tes marques, tu as pris tes fonctions il y a très peu de temps. Comment ça s'est passé ?
Très bien, et ma prise officielle de poste le 2 mars a coïncidé avec la sélection des architectes pour la phase 2 du concours du pôle muséal, puisque Lausanne a un formidable projet de musée d'une ampleur mondiale, puisque derrière la gare va se construire le futur musée des Beaux-Arts, le MCBA, le futur musée du design, le MUDAC, et le futur musée de l'Élysée, de la photographie. Le 2 et le 3 mars, nous avons donc découvert qui étaient les architectes qui ont postulé à ce concours. Ils étaient près de 180 et un jury, dont je fais partie, a sélectionné 21 bureaux d'architectes. Donc une prise de poste qui s'est déjà inscrite dans l'avenir avec un futur très ambitieux et formidable pour la Suisse.
C'est formidable. Lausanne va damer le pion à Genève. Moi, je suis un peu triste de ça, bien sûr, puisque nous sommes Genevois. Mais voilà, c'est aussi la qualité des gens, la croyance dans la possibilité de développement. Ici, on est un peu arrêté par toutes sortes de considérations parce qu'il y a des projets en route, comme tu sais, comme nous savons tous. Nous avons d'ailleurs ici, à cette antenne, reçu Jean Gandour qui ne voit pas avancer très vite son projet avec Jean Nouvel. Mais voilà, et puis il y a d'autres personnes qui croient en l'avenir, qui croient que l'art est porteur. Et c'est vrai que l'art, c'est immense et c'est beaucoup plus que de l'art.
Et c'est vrai qu'à Lausanne, on a la chance d'avoir des politiciens qui se sont associés de droite et de gauche sur un projet fort et qui mènent ce projet depuis de nombreuses années et qui est prêt d'aboutir. Donc le musée de l'Élysée sera normalement construit en 2020 et ouvrira ses portes avec le musée du design, le MUDAC.
Alors, en dehors de ce vaste programme dans lequel tu vas faire entendre la musique du musée de l'Élysée, que fais-tu pour le musée lui-même et quels sont tes projets, si on peut encore en parler?
Le musée de l'Élysée donc, fête cette année ses 30 ans et a de nombreux projets très importants, à commencer par une association avec le Paléo Festival de Nyon qui fête ses 40 ans. Le Paléo a mandaté le musée de l'Élysée pour donner carte blanche à 5 photographes afin de donner un autre regard sur Paléo. Donc ces 5 photographes sont Anne Gola, Elisa Lavergo, Olivier Christina, Nicolas Henny et Claude Bechtold. Et cet été, au mois de juillet, vous verrez les projets de ces 5 photographes. Le prix Élysée, puisque le musée de l'Élysée a un prix magnifique avec parmi Jenny Fleurier. Et ce prix s'adresse aux photographes en milieu de carrière. Ce prix n'a pas de thème, est extrêmement ouvert et le musée a sélectionné 8 photographes, 8 nominés, a réalisé une exposition et un livre de photographie pour ces 8 nominés. Et le 27 juin, lors de la Nuit des Images, nous annoncerons le lauréat de ce prix qui bénéficiera d'une exposition et d'un catalogue. Le 27 juin sera l'apogée des 30 ans puisque lors de la Nuit des Images, donc à partir de 15h jusqu'à 2h du matin, le musée recevra un certain nombre de spectacles, d'animations, de projections, de films. Et nous vous attendons très nombreux ce jour-là.
Alors, est-ce que tu souhaites faire une sorte d'invitation collective en donnant un site de façon à ce que les auditeurs puissent se brancher et savoir un peu tout ce qui se trame et se prépare, parce que c'est grandiose?
Oui, donc sur www.elysee.ch, vous verrez le nombre d'activités que nous avons cette année. La prochaine manifestation d'envergure qui aura lieu à Lausanne est le projet Objectif Gare, qui est la première manifestation commune aux 3 musées MCBA, MUDAC et Élysée. Un parcours dans la ville du 5 au 14 juin. Et la partie Élysée a pour thème le déménagement des collections par le collectif Riverboom, qui est un parcours original décrivant une cartographie décalée sous forme d'affiches. Nous présenterons le travail de l'artiste photographe lausannoise Catherine Lautenegger, qui réalisera un atelier exposition pendant toute la semaine, qui sera présente sur place. Nous présenterons également le travail de l'artiste espagnole Laia Abril, qui propose une réflexion sur la nouvelle manière de voir la pornographie. Et son travail sera présenté dans le cinéma pornographique Le Moderne, qui sera ouvert exceptionnellement pour la première fois pour cette exposition, qui était un ancien musée de la pornographie qui a été fermé par l'État. Et nous réouvrons ces salles pour le spectateur, pour le visiteur. Et enfin, sur la colline de Montrion, une exposition en plein air des photographies du photographe suisse René Bury, photographie en couleur, puisque la fondation René Bury est abritée par le musée de l'Élysée.
Tatiana, c'est un énorme challenge évidemment pour toi. Je rappelle que tu as 30 ans, que tu viens d'être nommée directrice du musée de l'Élysée. Tu as donc une charge immense, mais je sens un enthousiasme formidable. On connaît aussi ta capacité à mener tous les projets à la fois, on l'a entendu au cours de cette émission. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission. J'aurais aimé encore t'entendre parce que j'imagine que tu as encore tellement de choses à nous raconter, à nous dire et à nous faire vivre. Tu reviendras, je l'espère, devant cette antenne prochainement. En tout cas, merci d'être venu ici aujourd'hui. J'espère que tu as eu du plaisir parce que nous en avons eu un immense à t'écouter. Tu es un phénomène pour moi, je te le dis franchement et je dis très rarement ça à mes invités. Tu es un phénomène qui sait, évidemment, on ne voit pas puisque nous ne sommes pas en télévision, mais en plus tu es une femme absolument magnifique avec d'immenses yeux bleus et blondes et très grandes et très belles et très élégantes et tu as ce charme des gens qui ne savent pas qu'ils sont beaux et qu'ils sont merveilleux. Alors, tu es une très très belle personne. Je te remercie beaucoup d'être venue aujourd'hui nous parler de toi et de tes projets.
Merci infiniment Viviane pour ton chaleureux accueil et pour tes mots si vrais et si sincères, ce qui est très rare aujourd'hui. Et surtout, nous vous attendons nombreux au Musée de l'Élysée cette année, tout au long de l'année.
Nous viendrons et Radio Cité Genève parlera de tes projets régulièrement quand tu nous en feras part. À bientôt.
Merci.
Radio Cité Genève. Viviane Juteau, l'œil du commissaire-priseur.
Benden çekiniyormuşsun, bana göre değil hiç diyormuşsun. Çok baskın, çok iddialı, fazla popüler buluyormuşsun. Peki benim bir kalbim olduğunu, senin aşkınla doldurunu. Mahvolduğumu gerçekten mi görmüyorsun? Aa, sabredemiyorsun. Aa, fark edemiyorsun. Aa, hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Aa, sabredemiyorsun. Aa, fark edemiyorsun. Aa, hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Aa. Kaçıram yârim, aa, eğri doğruyu şaşıram yârim, aa, aşkımla ruhunu şad ederken, aa, sonunda sabrımı taşıram yârim. Seni anlamıyor değilim inan ki, yaşamak değil esaret sanki, hali benim kendi seçimim sonu. Güle seven dikenine dayanır yani. Bu durumda kalbine danışacaksın. Nereye kadar katlanacaksın? O kadar aşkın varsa hemen gel, kalbimde karargah kuracaksın. Aa, sabredemiyorsun. Aa, fark edemiyorsun. Aa, hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Aa, sabredemiyorsun. Aa, fark edemiyorsun. Aa, hissedemiyorsun. Garanticisin, korkuyorsun. Aa, gerçeği gözden kaçıram yârim. Aa, eğri doğruyu şaşıram yârim. Aa, aşkımla ruhunu şad ederken, aa, sonunda sabrımı taşıram yârim. Demiyorsun, garanticisin, korkuyorsun.